5 heures pile. Sans ouvrir les yeux, Pierrot tend la main droite pour entendre ce réveil et ne rate jamais son coup. L'habitude. Tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, pour rien au monde, il ne raterait ce rendez-vous. La pêche. Plus qu'un passe-temps. C'est une véritable passion qui s'est transmise de père en fils. Plus de fils, il n'en a pas. Ni de filles, d'ailleurs. Heureusement, Gaël, Mélanie et Léo, sans oublier Roméo, le magnifique épagneul qui veille sur Gaël. Un garçon malvoyant de naissance comble amplement ce vide.
Pierrot connaît leurs parents depuis toujours, et ces derniers lui font entièrement confiance, si bien que la plupart du temps, c'est lui qui les emmène au collège et les ramène à la maison une fois leur cours terminé. Les enfants l'adorent et le considèrent comme un papy de plus. Sitôt son café avalé, Pierrot prépare sa besace dans laquelle il place un morceau à pas avec une préférence pour les asticots. Il vérifie si le fil de sa canne à pêche n'est pas abîmé. Se prépare un petit casse-croûte et c'est parti. Il fait encore nuit quand il prend la route pour se rendre à l'étang de la Verte Vallée, à Calac. Ce n'est pas très loin de chez lui, mais il est chargé.
La vue de l'étang lui fait toujours le même effet. Un sentiment de paix et de sérénité l'envahit à chaque fois. Une brume blanche, légère au ras de l'eau, s'est invitée ce matin, rendant le lieu un peu plus mystérieux et féerique. La nature s'éveille doucement. Les fleurs blanches des trèfles d'eau commencent à briller dans la queue de l'étang. Un petit rond en surface trahit le plongeon d'une loutre à la poursuite d'une truite qui fera son dernier repas de la nuit.
Comme chaque matin, avant de commencer, et quand il est de cette humeur-là, Pierrot voyage. D'un bout à l'autre de son pays, celui qu'il n'a jamais quitté, il voyage. Des Landes de Saint-Maudet à Plourard, au nord-ouest, à Trémargat au sud-est, en passant par la forêt de Diotte, du chaos des gorges du Coron à la tourbière de Carfaven. Landes, forêts, zones humides, tourbières. Pierrot les sillonne encore presque chaque jour. Ses vieilles jambes le portent moins bien désormais, c'est sûr. Alors il confie à ses souvenirs le soin de le ramener aux sources de l'Irère ou du Blavet, de suivre les cours du Folézou ou du Kersau, et de rétablir le contact avec les loutres, les papillons tamis de la Sucisse, les écrevisses à pattes blanches, les chouettes. Les yeux fermés, Pierrot soupire d'aise quand il entend un petit clapotis, le signal pour revenir au présent.
Son sourire s'élargit. À la pêche maintenant.
Les amorces et les appâts ont été jetés à l'eau. Deux asticots sont sortis au bout de l'hameçon, un grand seau qu'il remplit de l'eau du lac près de lui. Assis sur son siège pliant, il n'a plus qu'à lancer sa ligne et à attendre. Pas longtemps. Le bouchon s'enfonce au bout de quelques minutes. Il relève la canne. Même à plusieurs mètres, il peut reconnaître le poisson. Un gardon, pas très gros, qu'il relâchera sûrement une fois sa pêche terminée.
Ainsi, Pierrot passe la matinée. D'autant plus qu'aujourd'hui, il ne doit pas accompagner les enfants à l'école, mais seulement les chercher à 16 heures. Alors il prend son temps, casse sa canne, se dégourdit un peu les jambes, regarde son sandwich en regardant le jour naître lentement. Ce sont les clapotis nombreux qui sortent de sa rêverie. Le bouchon a plongé sans réapparaître. Il se précipite vers sa canne et la rattrape de justesse. « Que c'est que c'est que ça ?» murmure-t-il en trois précautions. La force est telle qu'il fait deux pas en avant, tente de remonter sa ligne sans succès. À tous les coups, il a accroché quelque chose au fond de l'étang. Il pèse parce qu'il devra couper les fils de nylon. Il n'a aucune envie de se tremper jusqu'au hanche pour décrocher l'hameçon.
Non, ce n'est pas du tout ça. Sa canne l'entraîne maintenant vers la droite. Il pousse un juron. Des deux mains, il s'y crampe pendant le levant. C'est lourd. Il lève encore, et encore, et encore. La canne ploie en formant un arc de cercle presque parfait. Si ça continue, elle va se casser en deux. Tant pis. Pierrot va en avoir le cœur net et redoubler d'efforts. Les muscles de ses bras lui font mal. Malgré une matinée plutôt fraîche, il sent les gouttes de sueur perler à son front. Il décide alors de redoubler d'efforts pour tirer le poisson vers lui.
Soudain, la créature émerge. Une mouche énorme lui fait face que quatre barbillons entourent. Les yeux écarquillés, Pierrot bat à corps plusieurs minutes. Au bout de la ligne, le corps gigonne dans tous les sens. Il est si long qu'il n'en voit pas la queue. Il doit absolument le ramener vers la rive. Il fait deux pas en arrière et dans un dernier effort, hisse la cape géante qui maintenant tressaute à ses pieds sur la terre ferme. Pierrot n'en revient pas. De mémoire de pêcheur, il n'a jamais vu ça. « Ma parole, c'est pas un poisson, c'est un veau », lâche-t-il en soulevant la cape comme le ferait un haltérophile pour la mettre dans le grand saut où elle le tient à peine.
Il met du temps à rejoindre sa voiture, c'est qu'elle pèse son poids au moins 40 kilos, juge-t-il. Au volant, il sourit le Pierrot. Il imagine la tête de ses copains en café quand il montrera sa prise. C'est un klaxonnant qu'il se gare juste devant le bar et entre en lançant un tonitruant. « C'est qui, le roi de Calac ?» claironne-t-il en pointant ses deux pouces vers lui. « Et t'as décrété ça tout seul ?» demande le patron. Les autres accoudés au comptoir se marrent. Je viens de pêcher une carpe gigantesque, 1 mètre de long en bas et au moins 40 kilos. C'est le monstre du Loch Ness, ton Pascal.
Vous ne me croyez pas? C'est pas ça, Pierrot. Mais tu nous racontes tellement d'histoires bizarres. Bizarres? Se fixe-t-il. Ouais, comme la fois où tu nous as fait croire qu'on t'avait enfermé dans l'abbaye de Beauport où tu as passé la nuit à discuter avec le fantôme de Prosper Mérimée. C'est qui celui-là? Fait un type en fermant un œil. Un grand écrivain sans lequel l'abbaye n'aurait jamais été classée monument historique. Bande d'ignores, rétorque Pierrot, un poil vexé. T'énerve pas, elle est où ta merveille? Dans le coffre de la voiture, répond-il bougon.
Tous le suivent avec un petit sourire narquois, au coin des lèvres. Sourire bientôt remplacé par des exclamations.
Ouah, la vache dingue! T'as monté ça tout seul? Tu vas rentrer dans le livre des records, mon pote!
Seul Yann reste muet. De toute façon, il n'a pas été très démonstratif, ce garçon. Mais les yeux lui sortent presque de la tête quand il découvre la carte.
Alors, ça vous embouche un coin, hein? Bon, c'est pas le tout. Je vais aller faire couler un bain à la plus belle carte du monde. Ensuite, j'irai voir le maire. Faut que ça se sache.
Conclut-il, fier et heureux, en pensant au visage ébahi des enfants quand ils verront la carte.
Une dictée surprise juste avant la sonnerie. C'était pas cool. Sors à Gaël. Depuis quand les profs doivent être cool? Rétorque Mélanie. Si j'ai deux, ce sera un miracle, enchaîne Léo. Il y avait des mots vachement durs. Le thème de la dictée avait été chouette pourtant. Un texte sur les espaces naturels uniques qui entouraient Calac. Mais elle regorgeait de pièges.
Entre les noms d'animaux, les engoulevements, la chauve-souris, grand rhinolof, et ceux des essences d'arbres ou de plantes, comme cette garcette du Portugal ou ces sajons qui prennent un C, les lieux-dits et les noms de rivières et des cours d'eau, cette zone Natura 2000 de 3600 hectares, Gaël avait retenu ce chiffre, allait être leur cimetière orthographique.
Les enfants sont assis sur un banc à l'intérieur du collège. Interdiction d'attendre dehors. Les parents ont été fermes. On pourra réviser la leçon de géographie ensemble si vous voulez, dit Gaël. L'idée de revenir aux choses scolaires à l'autre zone Natura 2000 de leur territoire qui entoure l'abbaye de Beauport au nord n'enchante pas franchement Léo.
Mélanie ignore carrément la proposition et regarde sa montre. Pierrot a 15 minutes de retard. Ça ne lui ressemble pas du tout. Ça va. On peut attendre encore un peu. Il a peut-être fait une grosse sieste. Il a peut-être crevé sur la route ou bien il s'est trompé de jour. Au bout de 30 minutes, les enfants commencent à s'inquiéter. Je me gèle et j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, il nous a promis un super goûter. Je vais demander à la directrice d'appeler ma mère. C'est pas normal, décide Gaël.
Et j'entends d'ici Roméo grogner. Il n'est pas sorti de la journée. Gaël connaît bien son fidèle épagneul. Une heure plus tard, les voilà tous les trois chez lui devant un bol de chocolat. Maman, tu as appelé Pierrot? Oui, je suis tombée sur son répondeur. Il a dû oublier.
Ce n'est pas grave. Bon, comme j'ai quitté mon poste précipitamment, je dois participer à une réunion en visio. Ne faites pas trop de bruit, les enfants. On va promener Roméo, annonce Gaël. D'accord, mais ne vous éloignez pas trop.
Une fois dehors, les trois amis se regardent. S'il avait eu un empêchement, il aurait prévenu, non? Jamais Pierrot ne nous aurait oubliés. Mouais, j'ai un mauvais pressentiment, murmura Léo. Si ça se trouve, il s'est noyé dans l'étang. N'importe quoi!
Bon allez, on va chez lui, pense Mélanie. Roméo en tête, il se dirige vers la maison de Pierrot. 15 minutes plus tard, ils arrivent. Le portail blanc est ouvert, ce qui n'est pas étonnant. Mais la porte d'entrée est entrebâillée. Ça, c'est bizarre.
D'un pas timide, Léo pousse la porte. « Pierrot » appelle-t-il. Pas de réponse.
Mélanie avance jusqu'à la cuisine et pousse un cri. Deux chaises renversées, du verre brisé, un bol vide et une trace ensanglantée de 5 doigts sur un mur.
C'est quoi ce bazar? Jamais Pierrot ne serait sorti en laissant tout ça. Il est maniaque. Je vais voir dans sa chambre, dit Léo. Le lit est impeccable. Il n'a pas fait sa sieste. Dans la salle de bain, la baignoire est remplie de flaques d'eau partout.
Il n'est pas là-haut, dit Léo. Apparemment, il y a une bagarre, résume Yaël. Mais qui et pourquoi? Il n'y a rien de valeur ici. Pierrot l'aura surpris. Ça a dégénéré, d'où les traces de sang.
Ok, mais la grande question est, où est passé Pierrot? Sa voiture est dure. Soudain, Roméo se met à aboyer. Il gratte une porte au fond du couloir. Calme, Roméo, qu'est-ce qu'il y a? C'est la cave, dit Mélanie.
Léo tente de rire, fermé à clé. Tout ça n'est pas normal. On ne peut pas rester là sans rien faire. J'appelle mon père, dit Mélanie.
Il lui faut quelques minutes au père de Mélanie pour constater que la scène qu'il avait sous les yeux ne laissait rien présager de bon pour Pierrot. Il appelle aussitôt la police. « Ne touchez plus à rien, les enfants !» les prévient-il. C'est avec anxiété qu'ils attendent devant la maison. Quelques minutes plus tard, une voiture s'arrête juste devant eux. Les deux policiers municipaux, Jean-Yves et Marc, connaissent bien Pierrot. D'ailleurs, qui ne le connaît pas? Calac n'est pas une grande ville. Après avoir entendu le compte rendu des enfants et scruté la cuisine dans ses moindres recoins, les agents sont attirés par les aboiements de Roméo. Il faut toujours se fier au flair des chiens, dit Jean-Yves.
Après avoir cherché la clé en vain, il décide d'enfoncer la porte. D'abord à coups de pied, puis d'épaule, la porte cède au troisième assaut. Roméo se faufile entre les jambes des agents et dévale l'escalier. Ses aboiements résonnent encore plus dans la petite pièce sombre. Bon sang, lâche Marc en actionnant l'interrupteur. Les enfants, bouche ouverte, sont médusés. Incapables du moindre geste, ils sentent une boule grossière dans leur gorge. Assis sur une chaise, la tête tombant sur sa poitrine, une dentelle sur le front qui laisse échapper un filet de sang, un chiffon enfoncé dans la bouche, les mains attachées dans le dos, Pierrot ne bouge pas. Jean-Yves se précipite, lui enlève le bâillon, défait les liens qui l'entravent, pose 2 doigts sur sa carotide pour lui chercher un pouls. Il est vivant. Il lui tapote la joue, lui parle. Pierrot revient doucement à lui. Léo, les yeux brillants, se rapproche.
Les enfants, vous êtes là, vous allez bien? Murmure Pierrot. Tous sont étonnés par la question. C'est à toi qu'il faut demander ça, répond Mélanie, la gorge serrée en posant une main sur la sienne. Tandis que Roméo lèche l'autre avec application. Les policiers aident Pierrot à remonter et l'installent dans un fauteuil du salon. Tandis que le père de Mélanie va lui chercher un verre d'eau. « Pierrot, faut tout nous raconter, » dit Jean-Yves.
Pierrot ne desserre pas les lèvres. Muet comme une carpe, le policier insiste. « J'ai rien vu. Je me rappelle pas. J'ai dû trébucher, je me suis cogné la tête et... » Les agents se regardent. Ils ne sont pas convaincus. C'est évident. Pierrot est très mauvais comédien. Il ment. Mais pourquoi? Quelqu'un, visiblement, a pénétré chez toi, résume Jean-Yves. Il n'y a pas eu d'effraction, la porte est intacte. C'est donc toi qui as ouvert et laissé entrer le type. Tu le connais? Hein? Non, non.
Le policier ne lâche rien. Il sent bien que quelque chose cloche. Apparemment, vous vous êtes battu. Que voulait cette personne? Pierrot baragouine des phrases sans queue ni tête. Jean-Yves perspicace, ne lui laisse aucun répit et le bombarde de questions. Si bien qu'au bout d'un long moment, Pierrot crache. Il m'a dit que si je parlais, il ferait du mal aux enfants. Sa voix se brise, il les aime profondément, tous les trois. Ils sont un peu comme le petit enfant qu'il n'a jamais eu.
Tous sont estomaqués. Qui pourrait bien proférer une telle menace? Gaël, Mélanie et Léo, émus, se rapprochent encore un peu plus de leur ami. Écoute, Pierrot, les enfants sont là, ils vont bien, et nous veillerons sur eux. Mais si tu veux vraiment les protéger, il faut tout nous dire. Que voulait cet homme? Ma carpe. Les enfants, pouf. Les policiers soupirent. Encore une invention pour noyer le poisson. Je l'ai pêché ce matin. Demandez au café, je suis passé leur montrer. C'est la vérité. Et si vous ne me croyez pas, regardez, dit-il en sortant son téléphone de la poche de son pantalon. Je l'ai prise en photo.
Le téléphone passe de main en main. La taille du poisson inhabituelle suscite nombre de commentaires enthousiastes. Quelqu'un t'a fait du mal pour voler un poisson. Lance Mélanie, la compréhension est totale. C'est Marc, l'un des policiers, qui leur apporte l'explication. Certains coffres ont une valeur marchande incroyable. Mais je ne pensais pas que l'on pouvait trouver ici à Calac. C'est plutôt dans l'Oise ou en Île-de-France que les réseaux opéraient. Les réseaux ? Mais comment vous savez ça ? Interroge le père de Mélanie, stupéfait. Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Pas grand monde est au courant. C'est un ancien collègue qui m'a raconté ces histoires il y a 5 ou 6 ans. À l'époque, il faisait partie de la CATAC, la cellule antitrafic des associations carpistes.
Un trafic de carp ? S'étonne Pierrot. Et après on dit que je raconte des histoires bizarres. Ça, c'est la meilleure.
Ça vaut combien une carpe ? Ose demander Gaël.
Ça dépend bien du poids et de la taille. Mais en moyenne, si mes souvenirs sont bons, elles se revendent environ 5000 euros. Celle de Pierrot, au marché noir, vaudrait de l'or. Je dirais dans les 20 000 euros.
Si Pierrot n'était pas assis, il en serait tombé à la renverse. Chacun y va dans son commentaire. Mais qui achète ces carpes ? Demande Mélanie. Je ne comprends pas. Si c'est pour les manger, ça fait cher quand même. Elle n'intéresse pas les particuliers comme nous, mais les propriétaires de lacs ou des temps privés qui les font se reproduire et attirent ainsi les pêcheurs qui paient très cher leur emplacement dans l'espoir d'attraper la carpe du siècle. Il devait être au courant de tout ça. Il a failli me tuer pour de fric, ce saligo, grogne Pierrot.
Son nom ! Donne-nous son nom !
Ordonne l'un des policiers. Vas-y, Pierrot ! L'encourage Mélanie. On ne craint plus rien, ils vont l'arrêter.
À une condition. Tu crois que c'est le moment de poser des conditions ?
Rétorque Jean-Yves, qui commence sérieusement à perdre patience. Je veux que son arrestation soit grandiose. Je veux qu'il se sente le plus merde des hommes et que tout le monde le sache. Je veux que sa tête apparaisse dans tous les journaux du coin. Les enfants se regroupent, après un conciliabule à voix basse. Ils annoncent en chœur : On a une super idée !
Le journal du café fait l'objet de toutes les conversations ce matin. Du jamais vu à Calac, une carpe d'1,20 mètre et de 40 kg a été pêchée à l'étang de la Verte Vallée. Le pêcheur, un touriste allemand, en a fait don à la mairie. Elle sera exposée dans un grand aquarium avant d'être relâchée.
L'article décrit les espèces rares locales et l'émerveillement naturaliste du coin. C'est bon ça, se réjouit le patron. Tout seul, Yann Le Gouzic, agent municipal, élabore un plan. Il veut voler la carpe, il a les clés.
À 3h du matin, Yann pénètre dans la mairie avec un sac. Il ne doit pas traîner, il cherche l'escabeau et s'éclaire à la lampe torche. Il grimpe, plonge les bras, mais toutes les lumières s'allument.
Il perd l'équilibre et tombe dans l'aquarium. Quand il refait surface, les flashs crépitent. Face à lui, le maire, les policiers, la presse, Mélanie, Gaël, Léo et Pierrot, bras croisés, l'humiliation est totale.
Trempé, menotté, honteux, Yann repart. Chez lui, on retrouve la carpe volée dans un bassin bleu. Le lendemain, les enfants sont au bord de l'étang avec Pierrot. Ils relâchent la carpe dans l'eau.
Trop tard, ce devait être trop tendant. Le bel épagnol a plongé dans l'étang et s'ébroue dans l'eau, en déclenchant les rires de la joyeuse bande.